Bonjour Latif Alabissi, donc merci d'avoir accepté cet entretien pour Une Nuit d'Hiver, donc pour évoquer votre solo self-portrait camouflage, qui aura lieu le jeudi 19 à 20h et le vendredi 20 à 19h. Donc au début de la pièce, vous êtes étendu sur la scène, le corps recroquevillé, raide, pris parfois même de spasmes. On ressent une tension dans les gestes, des moments de paralysie qui sont comme suspendus. Et peu à peu, vos membres s'étendent, votre métamorphose se poursuit. Et l'œuvre semble ainsi symboliquement commencer par votre naissance, où, à la manière d'Orlan qui accouche d'elle-même, vous prenez conscience de votre être, à la fois corps et âme.
Alors, c'est une lecture qui est assez comment dire savoureuse à entendre, mais qui est une lecture subjective. Ce que je retiens dans ce que vous avez dit, en tout cas, qui est vraiment comme un élément au travail, c'est l'état du corps, en effet, plutôt noué, on va dire, ou en tension, ou on pourrait dire un corps chaotique. Mais en fait, c'est pas tant lié à moi, personne, sujet, Latifa, ma propre naissance, ou voilà. C'est plutôt en fait l'origine du travail où j'ai beaucoup travaillé à partir d'une large iconographie de ce qu'on a appelé pour la version, on va dire, pas très critique, les expositions universelles, et pour la façon de les nommer un peu plus critiques, en tout cas quelqu'un comme Pascal Blanchard, historien, a nommé ça les zoos humains, c'est-à-dire la façon dont on a exposé l'autre, voilà, l'étranger qui venait de pays lointains, et voilà, et comment parfois on lui a demandé dans ses expositions, puisque c'était, on demandait presque de surjouer des états physiques. Donc je me suis un peu nouée, nouée, c'est un lapsus, je me suis un peu nourrie de ça. Et aussi, je me suis beaucoup intéressée à un traumatisme, à un trauma intériorisé. Voilà, dans les relations de domination de peuple à peuple, en fait.
Justement, hein, contrairement à votre œuvre, donc l'histoire par celui qui la raconte, vous abordez la préhistoire, mais d'une manière fictionnelle. Là, au contraire, vous convoquez des références historiques qui sont très précises. La mise en scène, donc avec les barrières, n'est pas sans rappeler les zoos humains à l'exposition universelle de 1855 ou encore l'exposition coloniale en 1957, où vous rappelez très justement dans une interview que des hommes, des femmes, des enfants ils sont l'objet d'attractions curieuses. Coco Fusco et Gumès Pena dans Two Undiscovered Amerindians ont aussi, eux, rejoué, donc en se mettant en scène dans une cage. Vous parlez, quant à vous, d'une fiction de l'étranger entre cannibale et Vainé. Pensez-vous que ces problèmes d'intégration soient liés au non-dit, en fait à un retour du refoulé, qui se fait non pas dans le rêve comme chez Freud, mais plutôt dans la réalité?
Bah, je pense que comme tout refoulé, il y a une part très agissante du refoulé, c'est-à-dire que c'est des. Bah, puisque vous parlez de Freud, il parle très bien des phénomènes de hantise, en fait, quelque chose qui hante. Et alors, ce qui est étrange, c'est que, par exemple, enfin, on peut se dire, mais c'est étonnant, puisque, par exemple, chez certains jeunes, on peut se dire, mais ils n'ont pas vécu. C'est les grands-parents, ou au minimum les parents. Et comment ça se fait qu'il y ait comme ça des zones de transfert? Mais je pense que c'est un peu comme dans les non-dits. De problèmes familiaux, on a l'impression que y a des choses qu'on a tellement enterrées, tellement tues, que de toute façon, ça n'agit que sur ceux qui l'ont vécu. Et pourtant, il y a une sorte de poison qui se diffuse. Et j'ai l'impression que ça agit un peu de la même façon. Alors bien sûr, on peut objectiver ça, et l'art fait partie des processus d'objectivation, c'est-à-dire que on peut faire un travail tout simplement de connaissance, un travail voilà, sensible, critique. Et puis, voilà, mais on ne le fait pas toujours. On n'est pas très enjoint à le faire. Le on s'applique à la façon dont on apprend l'histoire ou dont les faits sont massivement désinformés, que ce soit à la télévision ou dans les médias de masse, on va dire. Donc ça veut dire que c'est encore c'est des phénomènes mais comme toute opération critique, il faut faire l'effort d'aller chercher les informations, voilà, pour s'émanciper aussi d'une histoire. Pour moi, l'idée n'est pas du tout d'établir d'abord une sorte de binarité entre des gens qui auraient subi et des gens qui auraient fait subir. Je pense que c'est beaucoup plus
Plus complexe.
méandreux. Je ne sais pas si ça existe, en tout cas, ce sera le néologisme du jour. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et qu'à un moment donné, à notre insu, où voilà, on participe tous à des refoulés, à des choses qui ne sont pas. Voilà. Et
L'inconscient collectif.
l'inconscient collectif, il y a des. Et donc, il n'y a pas du tout pour moi de mise en accusation, pas du tout. C'est plutôt une façon de dire, à un moment donné, les dépassements peuvent se faire si au minimum on accepte de voir, de regarder, de constater, d'en tirer, voilà, quelque chose qui nous grandit tous, en fait. Donc, c'est pas du tout. Ce serait du côté de l'émancipation. Mais pas du côté de l'accusation inféconde, quoi. C'est vraiment du côté de l'émancipation, de façon assez définitive.
Donc, lors d'un séminaire avec Christophe Wavelet, vous replacez la création donc, du solo en 2005-2006, donc dans un contexte avant les élections présidentielles et aussi ce que on met entre guillemets les événements dans les banlieues. 10 ans plus tard, dans le contexte actuel, donc après les attentats, après donc les débats sur le port du voile qui ont ravivé les questionnements autour de cette identité nationale entre guillemets à nouveau, pensez-vous que le contexte a changé, a évolué?
Ben, malheureusement, non. Il s'est même amplifié, je trouve, parce que c'est un contexte qui est devenu encore plus anxiogène par de nombreux phénomènes. D'abord, une forte paupérisation, voilà, d'une grande frange de la société française et aussi un peu partout en Europe. Ce qui fait que quand on est fragilisé dans ses bases, eh bien, on devient. L'hospitalité a moins de place dans notre vie en général, malheureusement. Donc, du coup, ça s'est amplifié par ces phénomènes-là. Ça s'est forcément amplifié par aussi les catastrophes mondiales, qu'elles soient d'ordre politique ou d'ordre climatique, qui font que, eh bien, on est amené aussi à considérer une forme ou à déconsidérer malheureusement une forme d'hospitalité envers les peuples qui sont obligés de quitter leurs endroits. Et puis évidemment, là pour le coup, une actualité beaucoup plus mortifère, évidemment, et largement condamnable que sont les attentats. Voilà, donc ça a plus pour moi un climat politique assez délétère. Bon, ben, on peut imaginer que tout ça bouillonnant ensemble, c'est encore une fois, c'est des phénomènes très départis. Hein. Je ne suis pas du tout en train de tout mélanger. C'est absolument départi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, encore une fois, que ce soit les médias de masse ou enfin, en tout cas, voilà, la façon dont ça nous est présenté, tout ça, justement, est présenté à égalité, j'ai envie de dire. Ben ça rend un climat très très anxiogène. Donc du coup les peurs sont très exacerbées et du coup ben, si on se met du côté des politiques et non pas du côté de la politique au sens la grandeur de la façon de la penser la cité mais plutôt du côté de la petite politique politicienne, ben, malheureusement on voit bien que c'est facile de surfer sur les vagues de la peur quoi. Et donc de diviser. Encore une fois, donc c'est vrai que moi je fais pas des spectacles qui sont des spectacles pour informer les gens. Enfin, sinon j'aurais fait du journalisme et tout ça. Simplement, je pense que c'est difficile pour moi de penser l'art comme complètement départi des questions politiques et sociales, donc ancré dans un moment, un instant T de l'histoire. Et donc il y a une part du réel qui fait presque infraction dans mon travail et que j'accueille comme une façon de témoigner depuis l'art. Et puis parce que je pense que l'art peut permettre un dépassement ou en tout cas peut participer à des formes d'émancipation critique et sensible surtout.
Justement, vous nous invitez non sans humour à ne pas attendre l'intervention miraculeuse de Spider-Man ou Zorro, qui seraient des sortes de figures salvatrices populaires, et à agir pour lutter contre la fatalité. Pensez-vous que le travail chorégraphique est un moyen d'agir sur les mécanismes sociaux, en particulier lutter contre la marginalisation des minorités?
Ben, c'est super ambitieux comme visée. Je crois que l'ambition va pas jusque-là, dans le sens où ben, ce serait génial d'en avoir la certitude. Ça, je sais pas, je serais un peu regonflée de plein d'entrain. J'en manque pas, mais néanmoins, quand même, je pense que ça y participe. C'est un élément dans un ensemble. L'art, pour moi, je dis souvent, c'est vrai que ça n'a pas la fonction d'un pansement social, ça ne peut pas venir. Voilà, ça a une. Ça, mais à l'endroit de la pensée critique, à l'endroit du sensible, vraiment, de la perception, d'une façon de décaler le regard, de s'autoriser pour un instant, regarder quelque chose autrement, enfin, faire. Voilà. J'ai l'impression que ça peut agir et ça peut agir justement au-delà de l'intellect en fait, au-delà de. Parce que là, bien sûr, on déplie les questions, donc on a l'impression qu'on est. Enfin, c'est peut-être pas une impression pour ce qui vous concerne, mais sûrement pas d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, d'être très théorique sur des questions. Mais au fond, parfois, ça passe simplement parce qu'on est touché par une image, parce qu'on est touché par un état de corps, parce qu'on se dit, mais ah ouais, mais c'est à ce point-là ça ou pas ça. Et d'un seul coup, ça reformule quelque chose, mais très intimement, en
Une
fait.
médiation différente.
Ouais, complètement. Et puis, le fait, moi, c'est bizarre, mais c'est aussi pour ça que le spectacle vivant m'intéresse beaucoup. C'est, pour moi, le public, ce n'est pas une masse uniforme. C'est vraiment des 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc, c'est vraiment des individus, néanmoins, qui sont ensemble au même moment, au même endroit. Et alors, ce n'est pas du tout une dimension mystique, mais quand même, je pense que c'est un moment quand même très rituel, un moment de spectacle. Et je pense que parfois, comme ça, faire l'expérience de quelque chose, même si elle sera différente pour chacun, c'est certain. Mais en tout cas, je pense que c'est des puissances d'agir, en fait. Je ne sais pas ce qu'en font les gens, mais moi, je sais que quand je lis un livre, quand je vais voir un film, quand je vais, il y a une puissance d'agir de l'art. Et qui agit sur moi et qui agit sur d'autres. Donc, du coup, ça me donne quand même beaucoup d'entrain pour me dire que, en tout cas, c'est le médium que j'ai choisi. Je ne saurais pas faire autre chose aujourd'hui, en tout cas.
Lorsque vous questionnez le statut donc de la danseuse, le statut de la femme arabe et qui est également citoyenne française, est-ce que vous placez ces minorités sur un même plan finalement?
C'est vrai, je parle souvent plus volontiers du statut du minoritaire, simplement parce que minorité, on a toujours tendance à le, d'un seul coup, comment dire, on resserre un peu le goulot, soit du côté minorité identitaire, soit du côté minorité de genre. Enfin, en tout cas, je trouve que par exemple, on peut faire une coupe beaucoup plus transversale en pensant classe, race, genre, qu'est-ce que c'est ou. Voilà, et du coup, si on fait cette coupe-là, par exemple, ben, oui, je pense que femmes, artistes d'origine du Maghreb, peut-être c'est. Mais je ne sais pas, en tout cas, ce n'est pas un prisme a priori quand même. Même si je sais qu'encore une fois, enfin, je parle depuis un lieu, quoi, qui est ce qui me constitue et que ça en fait partie. Et qu'à certains endroits du politique, ben oui, ça peut me mettre du côté du minoritaire. Mais j'en fais pas une assignation, en tout cas. J'en fais pas une assignation.
Justement, bien que ce travail ne soit pas concentré sur votre personne, est-ce que, à la manière de Lydia Lunch, qui est une chanteuse et performeuse américaine, féministe, qui est une de vos références, elle qualifie son travail scénique de psychothérapie publique. Est-ce que cette recherche de la catharsis est aussi une de vos motivations?
Alors, non, même si en effet j'adore Lydia Lunch et je sais aussi enfin, à quel point cette partie biographique est dans son travail, hein, c'est-à-dire que vraiment, un peu, enfin, très différemment parce que ce n'est pas les mêmes médiums, mais par exemple à la manière de Ango, par exemple, dans la littérature, hein, où vraiment tout, enfin, sa vie familiale, on va dire, ou ce qu'il a constitué intimement se retrouve à voilà. Et pour Lydia Lunch, c'est un peu la même chose pour moi, pas du tout, en fait. En fait, c'est aussi pour ça que ça s'appelle self-portrait camouflage. J'ai envie de dire que les parties peut-être biographiques, en tout cas dans self-portrait ou dans d'autres projets, elles sont là comme, comme des jeux de cache-cache un peu. Comme à un certain moment, je pense qu'elles sont aussi là parce qu'elles me constituent. Donc, je ne veux pas me cacher derrière là. Enfin, je veux dire. Oui, à un moment donné, si je prends l'accent arabe, l'accent arabe en français, c'est simplement, c'est vrai que pendant très longtemps, on me disait, mais c'est quoi ta langue maternelle? Et je me disais, alors c'est pas le français, c'est pas l'arabe, mais en fait c'est le français avec un accent arabe. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est extrêmement collé à mon intimité, à mon expérience de la langue. Mais c'est pas là comme une thérapie, pas du tout. Pas du tout, ça serait, pour moi, ce serait très problématique en fait, je saurais pas quoi faire de ça. Et ouais, je pense que c'est un autre, pour moi, c'est un autre espace. Par contre, l'espace de l'inconscient a une vraie place. C'est-à-dire que dans mon travail, il y a par exemple comment dire, des matériaux qui arrivent parce que c'est arrivé dans des rêves ou c'est arrivé par des pensées comme ça qui se sont suffisamment accrochées, qui font plutôt partie du registre de l'inconscient. Et je me dis, tiens, ça insiste suffisamment pour être un vrai truc, une vraie chose. Et du coup, ça apparaît dans le spectacle, par exemple, mais pas aussi explicitement connecté. Enfin, c'est surtout pas, non, surtout pas une thérapie, non. Au contraire, j'essaie vraiment de générer des dispositifs qui concernent l'autre par une autre stratégie. Parce que je pense que la stratégie, d'une certaine façon, de Ango ou de, je sais pas si elle, je l'emploie pas dans un mauvais sens, stratégie, je l'emploie, ouais, avec beaucoup de, enfin voilà, pas du tout dans la mauvaise stratégie dans le sens de manipulation. Je pense stratégie dans le sens d'essayer d'affûter son outil en fait de travail. Je pense que pour Lydia Lunch, que je parle d'Ango parce que c'est ce qui me vient le plus facilement à l'esprit en pensant à la littérature. Je pense que c'est aussi pour recréer du commun, en fait. C'est plonger dans la petite histoire qui est la leur. Je dis la petite parce qu'elle est à l'échelle du soi, pas du tout parce qu'elle est petite, mais parce qu'elle est à l'échelle de soi, pour justement recréer du commun, c'est-à-dire une comme puissance d'identification. Donc je pense que c'est,
Une
voilà.
histoire avec un grand H à la
Voilà,
fin.
hein, c'est un peu ce que dit, je sais pas, bon, c'est intéressant de parler de ça, mais un peu Deleuze qui dit. Mais c'est dégoûtant, ces façons de s'étaler soi comme ça, cette façon. Sauf si la petite histoire rencontre la grande histoire. Sauf si d'un seul coup, en effet, il y a la possibilité de recréer du commun ou en tout cas de générer une identification possible qui en effet, enfin, qui porte avec voilà, une ampleur au-delà de soi, quoi. Encore une fois, une question de dépassement de soi. Voilà.
Pour revenir donc à l'utilisation de l'accent, donc par le biais du travestissement, qu'il soit vestimentaire ou vocal, vous incarnez différents personnages. Dans la peau d'une maîtresse, vous donnez une leçon à Nicolas, Marine, Jean-Marie ou encore François et Ségolène. Pourtant, ils sont visiblement peu attentifs à votre réinterprétation musicale lorsque vous entonnez les jolies colonies de la France. Ignorance ou mépris de leur part?
Oh, moi, je dirais que là, l'opération, c'est déjà de faire entendre ça, c'est-à-dire un dialogue de sourds. Donc, c'est tout à fait ce que vous nommez là. C'est-à-dire qu'il y a un refoulé qui crie, j'ai envie de dire, mais pas de ma part, hein, je parle là plus d'un point de vue plus global, plus sociétal, on va dire, à être quand même problématisé, à se dire, bon. Jouer à appeler un chat un chien, mais à un moment, si on appelle un chat, c'est pas mal aussi, quoi. Ça peut nous faire avancer un peu. Et donc, c'est le dispositif, il est créé justement pour montrer à quel point, justement, ben voilà, il y a une dichotomie totale entre ce qui demande à être mis à jour et puis ce qui, voilà, une indiscipline comme ça, une façon de. Voilà, donc c'est une façon un peu, c'est vrai, assez burlesque de mettre en scène ça, mais c'est pour moi le rire, j'aime beaucoup, c'est que ça appelle le rire, ça appelle un rire critique, mais un rire tout de même. Mais c'est important pour moi de trouver des respirations du côté du rire, c'est-à-dire parce qu'on peut aussi avancer beaucoup en riant ensemble. Hein.
Justement, dans Lord Dream Song en 2010, donc le duo de fantômes que vous interprétez avec Sophia Touk Osoko, vous vous livrez donc à des blagues racistes, quitte à créer une gêne, un malaise, et on retrouve également cet humour grinçant dans ce solo. Quel rôle lui accordez-vous? C'est-à-dire, est-ce que, comme vous l'avez dit dans l'émission Des mots de minuit, est-ce seulement une stratégie de survie?
Pas seulement, c'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire que là, si on retournait du côté de l'intime, oui, c'est peut-être une stratégie de l'intime. de survie, mais dans la sphère de l'intime, j'ai envie de dire. Mais sinon, non, c'est pas seulement ça. C'est juste là, on a beaucoup sur le projet Lord Grimsong, on a beaucoup travaillé sur les stéréotypes, sur cette un peu ce qu'on appelle le racisme à la papa, quoi. C'est-à-dire, mais on disait ça, mais ça va, quoi. C'est voilà. Et cette espèce de violence qui rend. Oui, on parle de racisme ordinaire aussi, cette espèce de violence, voilà, très ordinaire, dont on a l'impression qu'au fond, ça va, on peut tous en rire et c'est pas bien grave. Mais à quel point, au fond, à quel point, c'est pas du tout pour polisser la parole, pour avoir. Mais ça agit, quoi, c'est des violences symboliques qui sont. Voilà. Donc là, c'est vraiment construit comme un piège, ça dure suffisamment longtemps. Ces blagues, on ne nous a pas encore vus en fait, parce qu'on est toujours en fantôme au moment où
Oui.
elles arrivent. Donc, bien sûr, si on voit nos noms, on se dit, bon, il y en a une qui doit être d'Afrique subsaharienne peut-être, l'autre du Maghreb, voilà, donc on se dit, bon, au minimum, voilà. Mais quand même, ça dure suffisamment longtemps pour que ce soit indigeste, parce qu'au début, vraiment, c'est construit comme un piège. Au début, les gens rient, mais vraiment, ils sont tordus de rire. Il y a même des gens qui disent les réponses qu'on a mis. Comme il y a quand même beaucoup de créativité dans l'horreur, on n'a pas eu beaucoup de mal à trouver des blagues racistes et des gens qui en font commerce. Donc, mais on a choisi celles qui se donnent à entendre de façon un peu comme des questions, un peu la blague à dessous. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui répondent en fait, qui les connaissent et qui répondent et qui en rient et voilà. Et puis, comme ça dure suffisamment longtemps, on passe du rire à une espèce d'effroi en se disant, mais quand même, bon, ça va quoi. Là, on n'est plus au dessert, où on sort trois blagues et puis on se tape le coude. Là, ça commence à durer. Et puis, en fait, ça va jusqu'à un peu le bord de la nausée, quoi. Et pour moi, ce qui était intéressant, c'était d'activer cette chose-là. C'est-à-dire, à l'endroit où c'est joyeux pour quelqu'un, c'est déjà la nausée pour un autre. Parce que c'est insupportable à entendre. Et donc, c'était important de plonger dans l'expérience de ça, mis à côté le projet, il n'est pas fait que de ça, mais en tout cas que ce matériau-là apparaisse, pour moi c'était important parce que c'était aussi un des stéréotypes de ce qui construit nos sociétés aujourd'hui, quoi. Donc voilà.
Donc pour revenir au début de la pièce, hein, pour vous qui collectionnez les nids d'oiseaux, cette éclosion ne se fait pas sans difficulté au début. Vous êtes dans un état de semi-conscience, il y a une sorte de jeu d'absence-présence. Vous chutez même à un moment. Et à travers cette expression corporelle qui développe une certaine esthétique de la monstruosité d'une certaine manière, le corps en fait semble porter dès le début les stigmates d'une violence physique et psychologique imposée par la société, un corps qui en fait résulterait d'un conditionnement social.
Oui, encore une fois, c'est un corps plus chaotique et puis c'est un corps aussi où, bon, je parlais de toute l'iconographie des os humains, mais c'est aussi un corps du côté du grotesque. Mais là, entre guillemets, on peut parler d'une esthétique du grotesque, en tout cas ou un corps, je sais pas, je pense au cri de Munch par exemple, ou je pense à une artiste que j'aime beaucoup qui est Valeska Gerd, qui est une artiste allemande qui, voilà, du début de la modernité en danse en Allemagne.
La déformation, en fait.
Oui, c'est vraiment. Enfin, en tout cas, c'est un corps qui ne cherche pas à lisser, notamment le visage, où on pourrait aussi aller du côté de Charcot, par exemple, voilà. Enfin, en tout cas, c'est un corps qui ne cherche pas à lisser des états traumatiques, en fait. Donc voilà. Et en même temps, on est dans un projet artistique et où on sait que c'est une fiction, enfin voilà, mais on est à mi-chemin comme ça, comme des fois pris par l'image et un peu peut-être. Quelqu'un me disait, alors c'est un peu un terme un peu comme ça qui peut. Il me disait, ce sont des figures apotropaïques. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais en fait, c'est dans le sens qu'une figure qui en même temps à la fois attire et repousse. Voilà, on a envie de regarder ce que c'est, en même temps, on se dit, ah non, ça me. Voilà, ça me. Et je trouvais que c'était assez intéressant par rapport aux os humains, en tout cas cette espèce de double état,
D'attraction, répulsion.
voilà, parce que c'est un peu ce qu'on a essayé de faire au fond, c'est-à-dire c'est d'exposer des femmes, des hommes, des enfants où on leur demandait de surjouer la monstruosité, où on leur demandait de surjouer une sauvagerie dont ils ne... Enfin voilà, ils ne marchaient pas du tout comme on leur demandait de marcher, ou ils ne s'accrochaient pas aux grilles pour les secouer. Et voilà. Et dans le but de faire le spectacle, de donner le change sur le spectacle, on leur demandait de surjouer. Alors évidemment, ce n'est pas ce que je refais du tout. Mais en tout cas, il y avait une violence comme ça, symbolique, que j'avais envie de remettre. Ouais, en tout cas, j'avais envie qu'elle soit efficiente. Et c'est pas, c'est bizarre à dire, mais c'est pas des, par exemple, ce qui se passe au niveau du visage, c'est pas du tout plaqué en fait. C'est vraiment des remontées d'état qui que j'ai laissées maintenant, qui sont des véritables partitions, enfin qui sont vraiment imprimées dans le corps. Mais c'est pas du tout plaqué quoi. Je me dis pas, je fais tel mouvement, je fais tel visage, pas du tout. C'est, je laisse monter l'état de corps jusqu'à ce que aussi il se formule aussi dans le visage en fait.
Pour évoquer justement le corps, au début de Self-Portrait Camouflage, c'est marqué par un temps de silence où seul le corps parle. Et vous vous positionnez ensuite face à un pupitre. D'ailleurs, pour y accéder, vous montez des marches, parcours de la reconnaissance peut-être, cette ascension difficile. Vous nous imposez alors une grimace, l'expression faciale qui permet à nouveau au corps de s'exprimer. Et ces paroles que vous articulez restent inaudibles. Est-ce la voix des minorités qui sont mises au ban du discours public, dont la parole demeure muselée, étouffée d'une certaine manière?
Peut-être c'est bien de laisser la part à l'interprétation. Je sais pas, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça. C'est un peu l'inverse de la classe à la fin, où là je parle beaucoup, enfin, avec cette façon de disposer les années. Là,
Interaction.
voilà. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu un discours muet aussi, parce que, enfin, muet, inaudible en tout cas, parce que voilà. Et là, c'est un peu autrement, mais d'une certaine façon, ouais. Puis c'est aussi ce, il y a une moquerie aussi, il y a une moquerie de cette espèce de stature, de voilà, de la, voilà, du discours, le statut du discours, de toute la, voilà, de l'académisme de ça, ou alors plutôt le pouvoir que donnent ces places comme ça de du pupitre et du discours, quoi. Donc il y a un jeu avec tout ça, c'est un entremêlé tout ça en fait.
Vous imposez la nudité, une nudité. Ce corps qui est mis à nu est-il le reflet donc d'une société qui elle aussi est mise à nu? Quel rapport vous entretenez avec la nudité dans l'œuvre?
Dans l'œuvre, en fait, c'est pas. En fait, ça, là, pour le coup, bah, on parlait tout à l'heure de l'inconscient. Pour moi, c'est vraiment. Je me suis vraiment vue comme ça, en fait, quand j'étais en train de commencer à penser au projet. Et au début, je me suis dit, mais bon, c'est un peu bizarre et tout ça. Et puis, je l'ai, comme ça, insisté exactement ce que je décrivais tout à l'heure. C'est une des choses qui insistait. Je l'ai gardé et j'ai commencé dès le début à travailler en répétition comme ça. Et en fait, j'ai compris que c'était peut-être l'une des conditions. C'est pas, d'abord, c'est un corps. C'est pas une nudité de séduction. C'est vraiment un corps social, en fait, plutôt. Et j'ai compris au final que si, d'une certaine façon, ça insistait, c'est que ça me faisait plonger dans des états, voilà, qui sont en même temps des états qui me donnent beaucoup de force, mais aussi beaucoup de vulnérabilité. Et donc, c'est un état performatif qui est très intéressant. Et voilà, donc la nudité, elle s'est jouée vraiment à cet endroit-là. C'est-à-dire, encore une fois, comment cette espèce de double truc de force et de vulnérabilité peut travailler ensemble. Et bizarrement, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup, pour avoir aussi parlé avec pas mal voilà, dans les spectacles successifs, ou des fois en allant écouter aussi voir des spectacles et écouter des discussions publiques où la nudité est en cause, par exemple. Et bizarrement, là, au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est normal. Enfin, je suis là, enfin, pour le public, je parle. Les gens me disent beaucoup, beaucoup ça. C'est bizarre parce qu'au début, on se dit, oh là, voilà, parce que c'est une nudité assez crue. Et puis, au moment donné, c'est un costume, en fait. Enfin, c'est. Et en même temps, c'est là, quoi. Donc,
Naturel.
oui, il y a quelque chose qui est complètement, voilà, je sais pas, ouais. Et ça m'intéresse beaucoup qu'on puisse y revenir ensemble. Une fois que je revais le drapeau, là, on se dit, ah, mais oui, voilà, en fait, mais oui, elle est nue. Et puis, alors qu'on n'y pensait plus, enfin, on me renvoie beaucoup ça. Donc, je trouve ça intéressant aussi, Voilà, et puis je trouve que dans ce projet, je ne l'ai pas pensé comme ça, donc c'est un peu bizarre de le dire parce que, comme ça, parce que c'est très rétrospectif, donc j'ai l'impression de ne pas être tout à fait honnête en disant ça. Mais quand même, il y a une façon de se jeter dans la bataille, quoi. Bon, au sens où Pasolini le dit, hein, il dit, voilà, je fais mes projets en me jetant à corps, voilà, dans la bataille. Il y a aussi une façon de s'y donner totalement, quoi. Mais qui n'est pas du tout faire don de soi, hein, mais qui. C'est un projet qui m'a vraiment, pour toutes les raisons, le contexte social, politique, tout ce qu'on disait tout à l'heure, cette réflexion plus critique, globale, mais aussi qui ramène à l'intime et tout ça, fait que, quand même, il fallait que que j'y aille, quoi. Que j'y aille.
Donc en plus, vous avez la tête ceinte d'une coiffe en plume, à la manière des Sioux, par exemple. Et est-ce une manière de faire écho aux Amérindiens ou à d'autres tribus autochtones et qui se sont retrouvées pour certaines parquées dans des réserves et qui ont subi des phénomènes de déculturation, acculturation?
Complètement, complètement. C'était pour moi. Je venais pas au nom de ça parce que je suis tout à fait illégitime, évidemment. Et puis c'était pas ça, c'est pas ça. Mais ça fait partie du montage de la figure, c'est-à-dire qu'elle est montée entre plusieurs phénomènes de, comme je disais, qui cumulent, enfin qui créent du minoritaire d'une certaine façon. Et qui convergent pour des luttes communes, en fait. Enfin, il y a une sorte de convergence, voilà. Donc, après, il y a un geste de ce point de vue-là, mais comme pour la nudité, comme pour le drapeau, il y a un geste très subversif, parce que ces coiffes sont normalement portées par des hommes et portées par des. Enfin, voilà, elles ne sont pas portées par des femmes, encore moins nues. Et puis, pour être légitime même comme homme à la portée, enfin, ça demande un certain nombre de rites. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'assez subversif, mais encore une fois, comme la nudité ou comme le drapeau, qui, là, je viens de le jouer aux États-Unis, qui n'a pas été sans critique très, 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 très violente, parce que. Bah parce que, voilà, parce que d'un seul coup, si on pense à cette figure comme une femme indienne, nord-américaine, qui vient porter un message depuis. Voilà, mais je n'incarne pas du tout ça. Mais si c'est lu comme ça, d'un seul coup, on est tout à fait heurté, parce qu'on se dit, mais qu'on est américaine native, on se dit, mais ça va pas, enfin, voilà. Donc c'est très, très important. Enfin, ça a été très, très important pour moi de préciser ça. Voilà, que c'était dans le sens de ce que vous écrivez, c'est-à-dire le sens d'une convergence de lutte, en fait. Voilà.
D'ailleurs, le solo se termine donc par l'ingestion du drapeau tricolore. C'est Bourratif, l'emblème national de la France.
Je sais pas si c'est bourratif, on peut le prendre, c'est quelque chose que je me suis beaucoup amusée à pas décrypter, en fait, parce que je trouve que c'est intéressant, on peut le voir de plein de façons différentes, on peut se dire que c'est bourratif, on peut se dire qu'on veut absolument en être, donc on l'ingère, qu'il y a quelque chose de presque anthropophage dans le geste. On peut se dire qu'on est totalement étouffé par un. Comme quand on gave une noix à bon escient pour certains et pour l'oie peut-être pas à si bon escient. Enfin voilà, ça dépend d'où on se place. Donc il y a une polysémie, mais comme dans tout le projet, c'est-à-dire il y a des décryptages, évidemment, moi j'ai des intentions. Mais je trouve que c'est tout l'intérêt du spectacle vivant, c'est de laisser cette polysémie agir et voilà. Donc elle est, je vais pas répondre de façon explicite pour laisser les choses parler, enfin les signes parler, pas toujours voilà, les définir.
Merci Latif Alabissi pour cet entretien.
Merci beaucoup.